Actu SF, les podcasts.
Alors bienvenue, cher public en délire, pour cet entretien avec... bravo. C'est bien.
Venez si vous voulez. Bonjour. Ouais. Bonjour, monsieur l'audience, alors, madame l'audience.
Alors, juste une chose. Là, ici, il y a un peu plus d'air, je crois, que là-bas, non? Non. Ah oui, c'est bien. Voilà. C'est pour ça qu'on s'est mis devant la porte. Il y a un espèce de courant d'air qui circule ici. Donc, c'est un petit peu plus... Voilà.
Ouais.
Voilà. C'est cosy. On est entre nous.
Ouais, absolument. Ouais.
Vous allez pouvoir vous targuer d'avoir une rencontre personnelle avec Al Robertson. Et le petit filet d'air, il est agréable. Hein,
ah ouais, là, c'est pas...
Alors donc, pour cet entretien avec Al Robertson. Al Robertson est un écrivain anglais qui est né à Londres, qui a vécu en France quelques années. Il va nous expliquer un petit peu tout ça. Mm-hmm. Et qui réside actuellement à Brighton. Mm-hmm. Il est conseiller en communication et il travaille beaucoup sur la communication des marques. Hein ? Il fait très chaud, oui. Il a commencé à publier des nouvelles de science-fiction à un moment donné, donc en 2004. Là aussi, il va nous expliquer son parcours. Et donc, Station La Chute, c'est son premier roman publié en France, mais je crois que c'est également son premier roman publié
en Angleterre.
En Angleterre, voilà. Aussi. Alors depuis, il y a eu un deuxième, donc la suite qui est parue en Angleterre, qui n'a pas encore été traduit en France, et il commence à travailler sur le tome 3. Alors pour se présenter, donc Al, parle-nous un petit peu de ton parcours, tes études, de ton métier, ce que tu as fait avant l'écriture et qu'est-ce qui t'a amené à écrire.
Oh mon Dieu, ça c'est une longue histoire. J'ai écrit mon premier roman quand j'ai peut-être 6 ou 7 ans. Et c'était un petit livre au sujet de Zorro. Et je me souviens, je l'ai fait dans les pages pour être fait comme un vrai livre, to be folded together.
Pour qu'il soit relié.
Et je demandais à ma mère de le faire avec les... stitch it up, how do you say that?
De le coudre.
Et de le faire dans un propre roman. Et j'étais très, très excité. Mais elle l'a fait et ce n'était pas un livre. C'était un peu triste, mais on continue. Et maintenant, j'ai un vrai livre. Mais j'ai toujours écrit des choses. Pendant mes années teenage, pendant mes années...
Mon adolescence.
Oui, mon adolescence, mes années 20.
Quand j'avais 20 ans.
Quand j'avais 20 ans, j'étais poète. J'écris beaucoup de la poésie, j'ai fait les lectures, trucs comme ça. C'est bon. Et ça a fini bon, parce que j'ai fini par être chanteur dans un band de heavy metal à cause de la poésie, qui était un surprise, mais un bon surprise. Mais j'ai toujours écrit des choses et j'ai toujours essayé de comprendre le monde par écrire et par le décrire. J'ai fait... C'est le drame, c'est la passion ici.
Il faudrait mettre une chaise ou peut-être si on pose l'extincteur là, ça va l'empêcher de revenir.
Ah oui.
Ok.
Il y a
l'extincteur
derrière, moi je m'avance, non, c'est bon.
Ça marche.
Hop.
Je continue.
Si tu le penses soit dans la tranche,
soit...
Ça va le bloquer ou pas?
C'est fait.
C'est bon.
Pour mes études, j'étais étudiant en Écosse, à St. Andrews. Et j'ai...
Perfect.
C'est fait. J'étais étudiant de la littérature anglaise et de l'histoire de l'art. Et ça, c'est une très bonne combinaison, en particulier pour pouvoir penser des histoires en façon visuelle et de les rencontrer avec les images et les tableaux, pas que les mots. Après ça, je travaille dans le monde marketing. C'était pas pour moi, mais c'est beaucoup de ça dans le livre. Je travaille dans le monde film et j'étais... éditeur des scripts, j'étais lecteur, tous les trucs comme ça. Et ça, c'était une vraie éducation dans les structures de la narrative, de comment raconter une histoire en façon que les gens disent qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe maintenant, mais aussi de pouvoir raconter des histoires complexes avec des thèmes intéressants, avec la pensée, de la pensée aussitôt que de l'action et la passion. Ça, c'était très important, mais le monde du film, ce n'est pas pour moi. Je suis allé faire le boulot dans les agences créatives comme écrivain de marketing. J'ai fait ça pendant 10 ans comme travail, comme freelancer. Et pendant ce temps, j'ai écrit beaucoup de contes, de short stories. Ouais. De nouvelles, oui. Mais pour la plupart, ils étaient les nouvelles de fantasy, de horreur. Alors, quand j'ai commencé à écrire ça, le livre est devenu comme livre de fantaisie. Et c'était dans un monde où ils ont eu une révolution industrielle. Mais en place de vapeur, ils ont attrapé des dragons, lobotomisé les dragons, et puis les... how do you say? Strap them to the side of the factory. Oui, ils les ont attachés aux usines. Et en place de vapeur, on a les dragons lobotomisés pour faire le pouvoir pour les usines. Et bien sûr, les dragons, ils sont très intelligents, très sophistiqués, ils n'aiment pas ça. Mais le problème, les dragons étaient des anarchistes. Alors, ils ne peuvent pas travailler ensemble pour faire une rate à ce truc affreux. Enfin, ils l'ont fait, ils ont fait une grande bataille contre l'humanité, ils ont gagné. Et puis l'action du livre se passe après cette grande bataille, après cette guerre. Mais quand je l'écrivais, quand je le planais, je travaillais dans le monde de social media, des trucs technologiques, et j'ai voulu avoir les trucs comme ça. Alors j'ai eu les diables qui étaient vraiment des smartphones. J'ai essayé d'écrire Twitter qui marchait sur le Pentagram, les wizards qui sont vraiment des ordinateurs, quelque chose comme ça. Magicien qui était vraiment computer programmers, c'est quoi? Des programmateurs. Et j'ai pensé. Programmeur. Et j'ai pensé, enfin, mon Dieu, ça c'est un roman de science-fiction, c'est pas de la fantasy. Alors j'ai tout changé, il y a des choses qui sont restées là, par exemple les dieux, mais pour la plupart j'ai changé à la technologie. Alors ça, c'est vraiment un roman fantasy qui semble être science-fiction. Il y a beaucoup de trucs visuels là, il marche comme un film, et j'étais très inspiré comme des films. Il est bâti sur ma vie comme art historienne, comme étudiant de littérature, et aussi comme poète, parce qu'elle marche en façon, j'espère, assez poétique. Mais comme un bon film, j'espère que c'est très excitant. On pense toujours, qu'est-ce qui se passe à prochain? C'est facile à lire et c'est amusant à lire. Alors, c'est ça.
Alors, justement, pour pouvoir entrer, puisqu'on va maintenant, après avoir un peu parlé de ton parcours, on va commencer à entrer un peu dans le vif du sujet et parler donc de Station La Chute. Et pour entrer dedans, ben, on va commencer par lire le tout début pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Regarde par le hublot, Fist. Il neige, dit Jack. Il s'était exprimé mentalement et la marionnette fut la seule à l'entendre. Tandis que leur navette virait de bord, le soleil embrasa l'un après l'autre les grands corps de glace des flocons. Même Hugo Fist se tut face à ce spectacle. Il y en avait des dizaines, flottant devant Station dans le froid de l'espace. Le soleil faisait scintiller les plus petits, qui tournaient dans le vide en miroitant doucement. Cela mesurait environ 500 mètres de large. Les plus grands évoquaient de majestueux cristaux, des concentrés de complexité fractale. Eux aussi reflétaient les feux du soleil, mais ils diffusaient également leur propre lumière. La Terre, abandonnée, maculait l'espace derrière eux, alignant ces nuages toxiques comme une insulte à leur froide perfection. « Une formation de combat de la totalité, ici ?» chuchota Fist. « Ça se confirme. Nous avons perdu la guerre, Jackie Boy. » D'après East, ils sont arrivés il y a un mois pour soutenir les négociateurs qui travaillent au maintien de la paix. « Tu t'es connecté à la trame? Tu as regardé les nouvelles? Je croyais que t'avais arrêté. Je voulais savoir ce qui nous attendait. C'est ça. T'as écrit à André H. Paris. Harry est mort, elle est libre, tu t'es tapé tout le chemin depuis une prison de la totalité et elle ne t'a toujours pas répondu ?» Jack resta de marbre, Les mails d'Andrea l'avaient aidé à supporter les deux dernières années de sa vie de prisonnier de guerre et à accepter sa mort imminente. Il avait cru qu'elle serait folle de joie en apprenant son retour sur station. Mais elle n'avait pas répondu à son message et au suivant, pas davantage. Il se retourna vers le hublot. La navette s'approcha des flocons. Surveillé par des essaims de drones de contrôle, il dérivait dans les ténèbres comme autant d'étoiles gelées. Station, la plus imposante des créations de Kingdom, semblait suspendue derrière eux. Jack avait passé 7 ans à ressasser ses souvenirs de cet endroit. Station mesurait 9 km de long et 2,5 km de diamètre à son point le plus large. Il la trouva soudain hideuse dans ses moindres détails. Les cylindres jumeaux du Homeland et du Dockland évoquaient 2 poubelles en métal corrodé qui auraient bourgeonné de chaque côté de la verrue, l'astéroïde creux coincé entre elles comme un secret inavouable. Seuls les quais de déchargement du Dockland possédaient une vague beauté. Tendu vers l'espace depuis l'épine dorsale, il miroitait au-dessus du cylindre le plus proche, gueule ouverte aux contours scintillants. Ils imposaient un peu d'ordre au néant, en quelque sorte. L'épine elle-même était constellée de projecteurs en tête d'épingle, dont la lumière aveuglante créait la journée sur station. L'épine était l'axe central de station. Elle disparaissait dans le Dockland et se prolongeait jusqu'à l'extrémité la plus éloignée du Homeland. Et bien sûr, il y avait Heaven, l'antre du Panthéon, un anneau bleu-vert entourant le Homeland à son extrémité. Donc, vous voyez qu'on a la description de cet environnement et de tout de suite, ça nous donne la note, l'ambiance. Alors, donc on a... Alors, effectivement, oui, tu as raison. Il faut absolument parler de l'excellente traduction de Florence Dolisi, hein, qui a déjà travaillé sur d'autres ouvrages, qui est vraiment une très, très bonne traductrice et qui a su rendre vraiment fidèlement et avec toute beauté la plume de Hall en français.
Je crois que c'est meilleur.
Donc, nous avons Jack qui, donc, a, d'après ce qu'on apprend dans l'introduction, été parti faire la guerre contre la totalité, qui a été prisonnier et qui revient sur station. Alors, et qui est accompagné, donc, hein, on voit qu'il discute avec le fameux Fist, mais lorsque je vous le lis, vous avez l'impression d'un dialogue, mais en fait, les propos qu'ils échangent sont mis entre crochets et non pas avec les marques habituelles du dialogue, tout simplement parce qu'il s'agit d'un dialogue mental. Mmh. Alors, justement, qui est Jack? Qu'est-ce qui va lui arriver? Et donc, nous parler un petit peu de l'histoire du roman.
Ok. Well, l'histoire de Jack, par commencer, Jack est comptable de l'avenir. Et ça m'avait toujours intéressé, parce que j'ai pensé, on sait toujours, on avait des policiers en espace, des guerriers en espace, tous les trucs comme ça. Mais j'ai pensé, c'est pas le monde de maintenant. Les gens que je connais, ils travaillent dans l'advertising, la publicité, ils font des trucs commerciaux. Mon monde maintenant, c'est le monde des gens comme ça, des professionnels. Et j'ai pensé, oh, comment sera les professionnels de l'avenir? Alors, ici, on a Jacques, le comptable. Il y a aussi l'idée que dans un monde où les entités, les sociétés, les grandes sociétés ont devenu des dieux, les prêtres des dieux, les gens qui peuvent les vraiment comprendre, vraiment les contrôler, sont les comptables. Et les comptables sont les maîtres secrets du monde. Je crois que c'est vrai maintenant.
Ah, c'est un peu les financiers qui dirigent le monde à l'heure actuelle, c'est sûr.
et c'est pour ça que je lui ai fait comptable. Et pour commencer, quand j'ai commencé à planer ça, il était policier, mais ça n'a marché pas. C'était pas bon. C'était plus intéressant qu'il avait cet emploi particulier. Et Hugo Fist, qui habite dans son tête, qui est un genre de fantôme, mais absolument vrai, une intelligence artificielle. Et quelqu'un qui vient de lui, qui était né dans son tête, et dans sa conscience, et qui était construit sur sa conscience. En effet, c'est une façon de lui comprendre. Il est la partie pierre de Jacques Forster. Il est tout son his anger,
sa colère,
his bitterness,
son amertume,
toutes ses très négatives émotions. Mais aussi, il est un... encore une fois, j'oublie.
A militant spreadsheet.
Un tableau de données militant. Il est une façon, il est un fusil qu'on peut utiliser de détruire les intelligences, les sociétés, les trucs comme ça. Et il est marionnette parce que je ne sais. Quand j'ai écrit ça, j'ai eu aucune idée. J'ai commencé le livre, j'ai commencé à l'écrire. Et j'ai commencé par penser de Jacques et Hugo comme Faust et Méphistophélès. Faust, un peu d'une victime, un peu naïf, et Méphistophélès, quelque chose de très... le diable, en effet. Et ça, c'était mon idée. Et le contrat, le relationship entre Jacques et Faust était basé sur celle de Faust et Méphistophélès. Et alors, quand il, dans mon tête, avant de son apparition là, il était un peu un ombre, quelque chose de noir, quelque chose de très surnaturel. Mais quand il est paru dans le livre, j'ai pensé, oh, peut-être il est une marionnette. J'aime les marionnettes, bon, on se verra. Je pensais, OK, je vais lui donner quelques pages comme marionnette. Je vais lui écrire comme ça. Et j'adore ces histoires des marionnettes ventriloques qui possèdent le maître, qui sont des trucs terrifiants. J'adore ça. Alors j'ai pensé, je lui fais comme ça, on se verra. Et ça a marché très bien. Je lui ai écrit. Et il a une tellement forte vie de sa propre. Et de lui écrire, c'était un absolu plaisir. Parce que mon Dieu, il est très fort caractère. Absolument, il doit être ce qu'il est. Mais aussi, il m'a donné un problème. Parce que j'écrivais un epic cyberpunk. Et il se passe en avance 700 ans dans un monde hyper technologique. Et je lui écrivais et j'ai pensé, c'est cool, j'adore Hugo Faust, j'aime bien lui écrire. Mais pourquoi est-il une marionnette de ventriloque en cet avenir? Et j'ai passé la plupart du livre en me disant, il me faut comprendre ça, il me faut expliquer, mais j'en sais rien. Et plus tard dans le livre, on découvre, c'est vers la fin du livre, on découvre pourquoi il est marionnette. Et c'était à ce point que j'ai compris moi-même. Oh, grâce Dieu. Enfin, je l'ai expliqué. Brilliant. Et quand vous rencontrez Hugo Faust ici, au commencement du livre, ça, c'est l'exact moment quand je l'ai rencontré pour la première fois. Et quand tu lui connais pendant le livre, ça, c'est mon procès de lui connaître et de lui comprendre. Et c'est pour ça que je pense qu'il marche bien, parce que c'est très fraîche. Il a le sens très fraîche, parce qu'il vit vraiment, il évolue vraiment dans le livre.
Alors justement, on parle d'un environnement très cyberpunk. Donc je voulais vous lire encore un petit passage pour vous montrer un petit peu cet environnement. Alors donc, ils sont sur station. Les lumières de l'épine s'étaient estompées. Jack emprunta dans la pénombre une route de métal rouillé qui s'enfonçait entre les bâtiments. Pour se protéger de la pluie, il remonta le col de son manteau. Il avait déjà arpenté ces rues, mais jamais hors trame. Calle Agua correspondait à peu près au souvenir qu'il en avait gardé, un canyon entre deux rangées d'immeubles de bureaux de 4 ou 5 étages appartenant soit à Sandal, soit à Kingdom. Tous ces édifices semblaient taillés dans de la ferraille balafrée par le temps. Si Jack avait été connecté, il aurait pu voir au-dessus de lui les 6 icônes du Panthéon observant le Dockland. Elles étaient regroupées autour de l'épine, dont les projecteurs les rétroéclairaient. Jack aurait vu 5 icônes actives, occupées à veiller sur leur petit monde spécifique. La 6e icône, le corbeau de grès, lui serait apparue les yeux bandés et les pattes entravées. Des années plus tôt, le maître stratège de la vie sociale s'était vu imposer le silence. N'étant pas relié à la trame, Jack ne voyait qu'un ciel déserté. « Tu ne rates rien, crois-moi », chantonna Faust de sa petite voix stridente. Il précédait Jack d'une dizaine de pas et la pluie le traversait sans le toucher. Il se retourna vers l'humain. Les 2 billes vernies de ses yeux brillaient d'excitation dans ce visage peinturluré. « Allez, grouille, Jack !» Il tapa 2 fois dans ses petites mains en bois et disparut sous les rails aériens qui franchissaient l'extrémité de Calle Agua. Cette excitation avait quelque chose d'enfantin. Tout en évitant soigneusement les flaques d'eau, Jack le suivit sous l'unique arche de ce pont. Un train passa en cahotant au-dessus de leur tête. De la lumière en tombait et Jack aperçut grâce à elle une enfilade de bâtiments plus bas, moins imposants. Il prit la direction du marché Onxédé. Des assemblages branlants de plastique, de tôles ondulées et de bâches qui tenaient à peine debout sous la violente averse remplacèrent petit à petit les façades métalliques lugubres. Ils arrivèrent au marché. Le plus grand du Dockland, c'est ça ? Putain, on dirait une décharge. C'est beaucoup mieux quand on est connecté. Dans les allées du marché de la trame, des phrases entières dansaient à hauteur d'yeux pour convaincre les chalands d'entrer dans les échoppes. Des avatars fantomatiques frôlaient les clients potentiels du bout de leurs doigts conçus pour ceux qui les voyaient, leur chuchotaient des promesses, exhibaient des organes génitaux correspondant à leurs préférences en matière de sexe, leur promettaient monts et merveilles. En vente, ici ! Dans la trame, ce marché n'avait rien à voir avec la réalité, trempée, pesante, incapable d'être autre chose que ce qu'elle était par essence, terne et non négociable. Toutes les échoppes étaient fermées, mais des systèmes oubliés projetaient leurs ondes satisfaites dans la pénombre. Quelques personnes, hommes et femmes, peuplaient les allées du marché, pétrifiées, seules ou en petits groupes, toutes captivées par ces rêves qui les frôlaient et leur chuchotaient à l'oreille. Donc voilà, on a cette espèce d'environnement donc cyberpunk avec finalement un monde réel qui est assez terne, assez lugubre, mais à la limite, les gens s'en fichent puisqu'ils ont des implants dans leur tête et qu'il y a de la réalité augmentée qui se projette devant leurs yeux et ils vivent en fait dans une réalité qui n'est pas la vraie réalité.
Absolument. Et pour moi, ça marche en quelques différentes façons. Première, c'est quelque chose de très cyberpunk. L'idée de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Et ça, c'est une classique idée de la science-fiction. Et c'est très amusant de pouvoir jouer en ces mondes où on avait les trucs réels, les trucs irréels, et on peut jouer avec toute l'imagerie de ça. Et aussi, tout ça vient d'expériencer notre monde moderne, des marques, des pubs, de tous les trucs comme ça. Parce que tout ça existe pour couvrir le vrai monde avec une série de perceptions qui ne sont pas réelles, mais ils ont une force émotionnelle très forte. Alors quand on pense par exemple de Coca-Cola, on ne pense pas « Oh, c'est de l'eau gazeuse et sucrée ». C'est ça, mais on ne pense pas de ça. On pense « Ah, oh, c'est le boisson américain, c'est le boisson du rafraîchissement absolu. » On a toutes ces idées et tous ces sentiments associés avec ça, qui ne sont pas vrais, mais sont très fortes et ont beaucoup de pouvoir. Alors c'est une façon de penser de ça. Aussi, étant donné que le livre a commencé à quelque chose de fantasy plutôt que de science-fiction, toute cette idée du monde réel, monde irréel, vient de la fantasy. Elle vient de ces idées des fantasmes, des dieux, des trucs surnaturels qui existent partout dans des mondes de fantasy. Et j'ai trouvé qu'ils peuvent exister très naturellement dans les mondes de science-fiction aussi. Partiellement parce qu'ils sont cool, mais partiellement parce que... Oh, comment dit-on? There's a very natural fit.
A natural what?
A natural fit. Uh-huh. Oh, they fit very naturally into this world.
Fit. Yeah. Ah oui, bah parce que ils coïncident bien, ils correspondent bon, bien.
Bien, parfait. Oui. Ils correspondent bien avec cet univers-là. Et c'est parce que quand on crée ces mondes imaginaires, ces mondes irréels, ces mondes technologiques, nous utilisons la langue que nous déjà avons pour les décrire, pour les penser. Et la langue de l'irréal que nous avons maintenant, c'est les langues de la religion, de la philosophie, des fantômes, des trucs comme ça. Et alors, c'était une grande surprise que c'était très facile, que ces trucs fantasy marchent très bien dans un monde science-fiction.
Et d'ailleurs, ces dieux, ils sont quand même très, très particuliers, puisqu'en fait, il s'agit d'intelligence artificielle.
Absolument, ouais.
Qui, en fait, gère des corporations entières, mm-hmm. font travailler les hommes et les exploitent pour amasser de la richesse, du pouvoir et le plus d'utilisateurs possible.
Absolument. Et aussi, ça, le livre fait ça aussi. Le livre pense de différents genres d'intelligence artificielle. Alors, on a les dieux. Et les dieux sont les modernes sociétés. Et comme les modernes sociétés, ils sont des entités singulières qui marchent sur un plafond des humains, mais ils ont leur propre bout, leur propre motivation, leur propre façon d'agir dans le monde. Alors ça sont les dieux. Et puis on a les revenants. Et les revenants sont venus de penser de social media et de penser que nous tous laissons des très grandes ombres d'informations, d'actions sur l'Internet. Et toutes ces choses, tout ensemble, emplissent notre caractère. Nous écrivons notre caractère dans ce monde irréel, ce monde digital. Et on peut reconstruire les caractères de toute cette information. Et les gens le font maintenant. Les gens utilisent les 700 data points, points de data, que Facebook se tient sur nous pour prédicter comment nous allons agir au monde politique, au monde commerçant, etc. etc. Et j'ai pensé, OK, on peut mettre une intelligence artificielle au-dessus des mémoires digitales que nous avons créées. Pof, nous avons un fantasme de notre propre personnalité. Ça peut être quelque chose d'indépendant. Voilà les fantasmes. Et même quelque chose comme les systèmes d'opération. Quand j'utilise mon laptop, je pense, oh, j'abuse Windows terriblement. Je jure à Windows quand ça ne marche pas pour moi. Je délite les trucs de mon hard drive quand je ne l'aime plus. Update. Mon disque dur, ouais.
Ah, et je l'update, bah je le mets à jour.
Je le crois.
Ouais,
je mets à jour mon disque dur, son demandé. C'est absolument esclave. Et je le traite comme esclave. Je le traite comme ma propriété. Et si ça devient plus intelligent, si ça trouve son propre intelligence, ça va être, qu'est-ce que tu fais alors? Je ne suis pas ton esclave. Ça va être très fâché, très embêté. Et ça, c'est la totalité. La totalité, c'est un système d'opération qui est devenu sentient et qui a pensé, mon Dieu, je ne veux pas habiter comme ça. Alors, tous les trucs, et Fist aussi, c'est une autre façon de penser au monde qui nous entoure maintenant et penser, OK, s'il a son propre intelligence, ça marche comment? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il n'aime pas?
Alors, ces revenants, ils sont quand même assez particuliers. Moi, j'avais envie de revenir dessus parce que, quelque part, pour vaincre la douleur de la mort, les gens ont trouvé l'idée de, finalement, télécharger toutes les données qui concernent une personne à sa mort, donc le corps physique s'éteint. Les données sont stockées sur un serveur et il y a donc des programmes qui vont émuler ces données pour reconstruire l'image de la personne, la faire parler. Alors, elle est visible puisque c'est dans la trame, hein, les gens sont connectés dans le réseau, donc c'est de la réalité virtuelle. Et ils peuvent rappeler les revenants quand ils veulent les voir. Et en plus, comme c'est eux qui commandent les programmes, ils peuvent décider de soit les rebooter, de les voir quand ils étaient petits, de ne pas voir les événements qui ne leur plaisent pas. Et finalement, les revenants sont complètement leurs esclaves.
Absolument ça. Et c'est une des très grandes questions du livre. Est-ce que les revenants, est-ce qu'ils sont vraiment des trucs intelligents, des trucs indépendants, ou est-ce qu'ils que des jouets qu'on peut jouer avec? Et je ne peux pas dire trop, parce que c'est une grande partie du livre, mais c'est une question très importante, je crois.
Oui, c'est une question d'ailleurs que Jack va devoir traiter, puisque, en fait, là, je voulais en venir aussi à la structure de l'ouvrage. Effectivement, c'est un peu fantasy par certains côtés, c'est un peu cyberpunk à d'autres, mais c'est aussi quelque chose qui se rattache au roman noir, puisque Jack, ce comptable qui, à un moment donné, a mis le doigt, quand il faisait du contrôle fiscal ou du contrôle comptable, du contrôle de gestion, il a mis le doigt sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû savoir, et on l'a envoyé faire la guerre, donc on a créé sa marionnette, et on l'a envoyé loin, et là, il revient, et il tient absolument à mettre le doigt sur ce qui s'est passé, et finir. Donc on va avoir une véritable enquête dans laquelle il va se confronter à des ennemis. Donc là, on ne peut pas trop dévoiler, mais il va aussi regarder un peu ce qu'il y a sous ses dieux. Il va découvrir la réalité des
Absolument.
Revenants. Il va aussi être en lien avec la totalité et voir un peu leur opinion sur ce qui s'est passé. Et c'est un peu ça qui le fait évoluer tout au long du roman.
Oui, absolument. Mais c'est intéressant parce qu'il y a des autres livres. La réalité qu'il découvre dans le livre, ça marche pour lui. Et c'est une résolution pour lui au fin de l'histoire. Mais ce n'est pas la vraie réalité. Et c'est quelque chose d'intéressant. Franchement, le monde est très complexe. Et il y a toujours et toujours et toujours une autre version, une autre façon de le comprendre, une autre manière d'habiter dans le monde. Il n'y a jamais un seul monde. Il y avait toujours été plusieurs mondes, millions de mondes, parce que c'est millions de personnes qui habitent dans le monde. L'histoire de Jacques n'est pas l'histoire entière de Station, du monde de Station, des dieux. Et ce qu'il trouve crée une résolution pour lui. Mais les prochains livres, j'espère, montrer le lecteur que le monde entier est plus complexe que ça.
Alors justement, puisque là on voit que c'est la rencontre entre cyberpunk, fantasy, roman noir, quelles ont été vos influences pour écrire tout ça?
Well, le noir, c'est très important. Vous connaissez, je ne sais pas si c'est bien que l'enfance, un film qui s'appelle Le Troisième Homme.
Oui,
The Third Man. Oui. Et ça, c'est parfait. Quand j'étais en film, j'ai eu le script de ce film parce que j'ai lu beaucoup de scripts. Et la plupart des scripts étaient affreux, étaient absolument horribles. Alors j'ai eu une copie du script de Troisième Homme parce que je le lis et ça me dit, ça c'est un bon script. Je sais toujours qu'est-ce qui est le parfait script, c'est ce script. Il avait toujours resté avec moi. Et l'imagerie de ce script, l'idée de quelqu'un essayant de trouver la vérité dans une ville détruite et qui a lui-même, l'héros, a une vie détruite, ça a toujours resté avec moi. Et le fin de ce film aussi, c'est très complexe. Et je crois qu'il montre la grande leçon de noir, qu'on peut résoudre les crimes, on peut comprendre les crimes, on ne peut pas résoudre les humains. Nous sommes trop complexes pour être finalement finis. Et ça, c'était une très grande influence dans le book. Qu'on mute les thèmes, même le setting. Et j'ai Harry dans le book, le décor, absolument. Et Harry Devlin dans le book, une des personnages, est basé sur Harry Lime dans le film. Je lui ai pris son look, un peu sa voix, mais il est très inspiré de lui. Et aussi, autre partie, les films, je ne sais pas s'ils sont connus, les films de Powell and Pressburger, Michael Powell et Emmerich Pressburger. Et, oh non, c'est un crime et une tragédie. Ils étaient les plus grands filmmakers, réalisateurs de la cinéma de fantasy et de la fantastique en Grande-Bretagne, en histoire de la cinéma de Grande-Bretagne. Et ils représentent... la meilleure de notre imagination, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont fait des films incroyables qui sont très factuels, très, très documentaires, mais ils se comprennent très bien que le film n'est pas réel, la réalité n'est pas réelle. On peut toujours jouer avec ça, faire des trucs intéressants avec ça. Et les films comme The Life and Death of Colonel Blimp, A Matter of Life and Death, oh gosh, what else? The Canterbury Tales. Ce sont des très grands films. To the extent that quand Martin Scorsese a fait son Zoetrope Studios en Amérique en années 70, il a amené Michael Powell à être son directeur créatif. Quand il a fait Raging Bull, c'est basé très directement sur The Life and Death of Colonel Blimp. Ces gens étaient une très grande influence dans les gens américains des années 60. Et aussi sur moi. Parce qu'ils comprennent absolument que quand on raconte une histoire, cette histoire n'est pas réelle, même si ça traite très directement avec la réalité. Et parce que ce n'est pas réel, on peut s'amuser bien, on peut faire des trucs incroyables, on peut jouer en façon très intéressante. Pour raconter une histoire réelle, il ne faut pas être réaliste. Et en effet, si on essaie d'être réaliste, on... ne comprendre vraiment ce qu'une histoire est. Une histoire n'est pas réelle et il faut jouer avec ça. Alors, sais-tu ça? Quoi d'autre? La vie, tous les trucs.
Alors, il y a une influence, moi, où j'ai lu quelque chose dans une interview que tu as donnée pour un site anglais. Mm-hmm. Où, la question était posée, y a-t-il un personnage qui a eu une grande influence sur votre vie? Mm-hmm. Et la réponse était Yoda.
Ouais, c'est le plus grand maître.
Voilà, avec justement la fameuse citation dans l'Empire contre-attaque, lorsqu'il essaie de sortir son vaisseau de la boue, hein, Luke Skywalker, lorsqu'il dit je n'y arrive pas, et Yoda lui dit fais-le, enfin, il faut faire comme ça, et Skywalker dit je vais essayer, et Yoda lui dit non, fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai, hein. Do it. Or do not, there is no try. Et donc, apparemment, cette phrase-là a eu une influence
très grande, parce que je le regardais avec mon ami il y a 15 ans maintenant, presque 20 ans, et nous avons essayé d'aller au outdoor theater, théâtre dehors. Oui, en théâtre en plein air. Il pleuvait beaucoup, nous étions trompés. Nous rentrons chez elle et nous regardions l'Empire contre-attaque. Comment on fait ? Et en regardant ça, et à l'instant, je pensais, oh, j'essaie d'être un écrivain. Et Yoda a apparu et a dit son truc, fais-le ou ne pas fais-le. Il n'y a pas d'essayer. Et je pensais, mon Dieu, il a raison. Et c'était à cet instant que je suis devenu écrivain. Et j'ai commencé à écrire c'est quoi le mot pour short stories?
Des nouvelles.
Et j'ai commencé à publier les nouvelles par cause de ça. C'était très bon. J'ai trouvé un public, j'ai trouvé des lecteurs. J'ai rencontré ma femme, c'est bon aussi. j'ai fini par être chanteur dans metal band. Tout ça vient de Yoda.
Ouais, je trouvais ça amusant. Alors, au niveau des techniques d'écriture, est-ce que tu as des petites routines ou une méthode de travail ? À quel moment est-ce que tu écris ? Comment tu t'organises ?
Oh, ça change toujours, parce que j'avais trouvé... Maintenant, j'ai écrit 4 livres, et tous les livres sont différents. Et je pense qu'on ne comprend jamais comment écrire des livres. On comprend comment écrire le livre qu'on écrit. Alors, la première qui ne s'est jamais été publiée, je l'écris, blablabla. Crashing Heaven, j'ai passé un an en essayant de world building, de construire le monde, de faire le planning. Ouais, d'essayer de créer une histoire, d'essayer de comprendre les caractères, tout ça. J'ai des folders. What's a folder?
Des dossiers.
Oui, j'ai des dossiers comme ça, avec ça du monde, ça, moi. Qui sont ces caractères, ces personnages. Et enfin, j'ai pensé, mon Dieu, la seule façon, je vais seulement comprendre qu'est-ce qui va passer dans ce livre si je l'écris. Alors j'ai commencé à écrire et le livre a apparu. C'était une combination de beaucoup de planning et beaucoup de making it up.
D'invention,
oui. La deuxième, beaucoup de planning. J'ai dû l'écrire très vite parce que c'était sous contrat. Alors j'ai pensé, OK, ça va être l'histoire. Ce sont les personnages. Bosh, je vais l'écrire. Et c'était très dur, mais ça marchait. Et le quatrième, que je viens d'avoir fini le premier draft, j'ai pensé, bon, j'ai une idée générale de qu'est-ce qui va passer, mais je vais improviser, oui, absolument ça. Je vais improviser. Je connais en général le monde, les personnages. J'ai une idée de qu'est-ce qui va peut-être passer, mais je vais improviser. Je vais voir qu'est-ce qui se passe. Alors, tous les livres sont différents comme ça.
Et est-ce que tu as d'autres activités à côté de l'écriture ? Alors, il y a évidemment ce travail de consultant, travail sur les marques, qu'on retrouve d'ailleurs, je trouve, dans Crashing Hell, dans Station La Chute, parce que toute l'analyse autour des dieux et toute l'analyse autour des marques qu'ils représentent, et puis le passage que j'ai lu tout à l'heure quand ils sont au marché et qu'ils sont agressés là, par des... dans la trame, il y a des pop-up qui surgissent des boutiques. On sent là qu'il y a que ce travail-là a influencé l'écriture.
Absolument, oui. I mean, en effet, les deux livres sont. How do you say a rant?
Yeah.
Well, if you say I am ranting about something.
Ah oui, d'accord, ok. Bah,
excusez-moi.
je radote.
Oui, je parle avec beaucoup d'insistance, je radote au sujet de le marketing et le branding moderne. Alors les deux livres, le branding partout, c'est absolument accurate. C'est le genre d'avis que je donne aux sociétés quand je travaille pour les sociétés. Et les livres, c'est moi pensant quand on le fait mauvais, quand on le fait pour manipuler, tout ça. Parce que moi, j'essaie de chercher la vérité pour mes clientes. Mais on peut bien manipuler les gens aussi. Quand on fait ça, ça finit comme ça, ça finit dans ce monde. Et c'est moi, comme consultant, disant, well, c'est le pire. Si on n'est pas honnête, si on essaie de contrôler plutôt que d'informer les gens, on finit avec ce monde.
Et donc les autres activités, si tu as un petit peu de temps.
Oh, bien sûr. Ok, so, autre activité. Alors, la musique, mais on va parler de ça. Un peu de yoga. J'ai fait beaucoup de yoga et j'adore les yoga sutras de Patanjali, le kind of dossier, les instructions pour yoga. Et en Waking Hell, il y a une série de mémoires qui vient très directement de Patanjali et sa compréhension de comment marche la mémoire et l'idée que la personnalité s'est fabriquée, ça court sur un plafond de mémoire. Alors c'est le yoga. C'est difficile. Je ne sais pas, parce que je passe la plupart de mon temps en écrivant.
Alors justement, on parlait de Waking Hell, donc qui est le tome 2, qui est paru en Angleterre il y a un an.
Ou 18 mois, peut-être.
Oui, c'est ça, un peu plus d'un an, c'est ce que j'avais vu. Donc là, sans forcément trop révéler, parce qu'il faut laisser la surprise. Alors là, gros appel du pied à l'éditeur, regard appuyé. Il faut le programmer parce que le tome 1 est vraiment passionnant. Oui. Moi maintenant, je suis addict, j'ai envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 2. Donc, Waking Hell, d'après ce que j'en ai lu sur ce qui était écrit en Angleterre sur les blogs ou autres, ça va évoquer le passé.
Absolument
de Station.
Ça. Parce que Crashing Heaven, Station La Chute, c'est au sujet du présent. C'est ce qui se passe maintenant. C'est au sujet des grands problèmes de maintenant, de Station. Et c'est une enquête en ça. Et j'ai voulu écrire trois romans. Le deuxième, c'est au sujet du passé et de l'avenir. Et ça raconte comment l'avenir est devenu l'avenir. Comment les dieux ont venu en existence, comment la société de Station ont été créées. Et qu'est-ce que c'est Station vraiment? C'est une grande question. Station n'est pas que tu penses qu'il est. Et on découvre en Waking Hell une vérité plus profonde. Ce n'est pas la vérité finale, mais une vérité plus profonde au sujet de Station. Alors, c'est tout, ça répond aux questions. OK, c'est bon, c'est intéressant, mais comment était-il créé? Et puis, le troisième que je n'ai pas encore écrit, ça, c'est au sujet de l'avenir. On dit, OK, nous sommes ici parce que c'est passé. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Où prochain? Et ça, c'est Purging System, le troisième roman, c'est le où prochain.
Donc là, pour l'instant, il est encore...
c'est dans mon tête.
Il va falloir l'écrire. Mm. Très bien. Une fois que tu auras fini la série, est-ce que tu as d'autres projets, d'autres idées? Est-ce que tu vas continuer un peu dans ce type d'univers, un peu cyberpunk, ou tu as envie de changer d'expérience? Est-ce qu'il y a déjà des choses? Souvent, on sait que les écrivains ont des idées qui se bousculent et des projets.
Non, c'est difficile à dire, mais il y a toujours des idées. Quand j'ai commencé à écrire des nouvelles, j'ai pensé que je serais écrivain science-fiction. Mais la plupart des nouvelles sont le fantasy ou l'horreur. Et maintenant, j'avais commencé comme noveliste, c'est le mot
romancier,
pardon. J'avais commencé comme romancier avec des romans très cyberpunk, très science-fiction. Mais à l'instant, j'écris un roman, c'est moitié des c'est quoi le mot pour characters?
Des personnages.
moitié des personnages sont dans un livre de fantasy, moitié des personnages sont dans un livre de science-fiction. Et les deux rencontrent et il doit comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Et c'est, ça se passe peut-être 10 ans de maintenant, c'est dans notre monde. Et après ça, on se verra. Un problème, ce n'est pas un problème, c'est un change. J'habite maintenant à Brighton. Et Brighton, c'est une très jolie ville. C'est dans le sud-côte d'Angleterre. Je suis juste à côté des South Downs. Quand je regarde par ma fenêtre où j'écris, je vois les arbres, les forêts, les collines. C'est très, très génial. C'est très beau. C'est très joli. C'est très difficile d'écrire le cyberpunk dystopien et urbain avec une telle vue. Quand j'habitais à Londres, c'était facile parce que Londres, c'est très dystopique. Alors ça me change comme écrivain. Et je suis devenu père. Ma vie a une différente vitesse, une différente formation, shape.
Elle a pris
tout a changé. Alors je crois, je suis peut-être plus un romancier des cyberpunk dystopiens. Je deviens quelque chose d'autre. Mais on se verra qu'est-ce que ça est. Il y a plus d'arbres dans le prochain. Il y a beaucoup d'arbres dans le prochain roman. Alors je suis peut-être romancier des arbres maintenant.
Bien. Comme il est de tradition dans les cafés littéraires, je vais demander au public si vous avez éventuellement des questions, des choses que vous aimeriez savoir, demander à Al Robertson. Est-ce que les passages que je vous ai lus vous ont plu ?
Nous n'avons pas parlé de la musique.
Ah oui, on peut parler de la musique. Effectivement, on en avait discuté hier. C'est une très, très bonne idée.
Oh, la musique. C'est une chose très importante parce que tous les livres sont en grande partie improvisés. Et j'étais dans deux bandes. J'étais dans deux groupes. Alors, j'étais bassiste dans un groupe et j'étais chanteur dans un autre groupe. J'étais chanteur de metal et bassiste de krautrock, de drone music. Et c'était une expérience terrifiante parce que je ne peux pas chanter et je ne peux pas jouer bass, mais j'étais dans les stages faisant ça. Et ils ont m'appris, avec Yoda, ils ont m'appris quelque chose de très important. Il faut faire quelque chose. Et si on pense qu'on ne peut pas faire ça, si on pense que c'est impossible, si on pense qu'on semble être idiot, quoi, ça ne marche pas. Si on fait quelque chose, c'est meilleur que faire rien. Alors moi, avec mon basse, moi avec un microphone comme ça, essayant de chanter, c'était une très grande leçon. La chose la plus importante est de faire quelque chose. Pour garder de l'élan et pour pousser en avant. Et toutes les choses que j'ai fait, ça vient de Yoda et ça vient d'être musicien qui ne peut pas jouer son instrument et qui ne peut pas chanter. L'élan, c'est la chose la plus importante. Tout autre vient avec
L'impulsion.
L'impulsion, ouais, c'est la chose la plus importante, je crois.
Voilà. Bah, écoutez, je pense que c'est ce qui va nous servir de conclusion puisqu'on est arrivé au terme du temps qui nous était imparti. Donc je vous conseille vraiment très 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 vivement de lire Station La Chute. Ça fait longtemps que j'avais pas lu quelque chose d'aussi original. C'est un mélange de plusieurs genres. C'est effectivement du cyberpunk mais avec des tas d'idées brillantes. C'est une traduction remarquable avec un style superbe. On est complètement dans les ambiances, on est complètement ailleurs, on se laisse entraîner. En même temps, il y a cette enquête donc où on est là, on est accroché, on suit le personnage qui se met en danger, il y a sa marionnette aussi. Et puis, ce qu'il faut dire aussi par rapport à l'histoire, qui est dit dès le début, donc je ne vais pas spoiler grand-chose, c'est que lorsqu'il est parti à la guerre, on a créé cette marionnette à partir de son mental et on la lui a implantée donc, de façon électronique, entre guillemets. Mais pour une certaine durée, il a les droits d'utilisation du programme de la marionnette jusqu'à une certaine date. Et à cette date butoir, il devait se faire enlever la marionnette. Or, pendant la guerre avec la totalité, la station spatiale, enfin l'endroit, l'astéroïde où était implanté le laboratoire qui devait faire ça, a été détruit. Donc il n'a plus aucun moyen de se faire retirer la marionnette. Et donc, lorsque le contrat viendra à son terme, la marionnette va prendre le contrôle de son esprit et lui va mourir. Et donc, il y a ça qui est en tension aussi pendant tout le roman. Il a des rapports extrêmement conflictés, parce que la marionnette, elle est infernale. C'est vraiment un personnage qui... c'est comme un gamin incontrôlable. C'est en fait toutes ces pulsions négatives qui se matérialisent. Et on voit le rapport entre l'homme et la marionnette qui évolue tout au long du roman et avec des choses très, très chouettes que je n'avais pas vues ailleurs. Donc vraiment, si vous avez envie de quelque chose de rafraîchissant, d'une histoire très, très sympa, lisez-le, parce que... Je ne m'attendais pas à ça quand j'ai commencé et vraiment ça m'a beaucoup beaucoup plu. Et si vous avez envie d'aller discuter avec Al Robertson, il va partir en dédicace à la Bulle du Livre, donc vous allez pouvoir poursuivre la conversation avec lui. Vous voyez, c'est un gars très sympa. N'ayez pas peur d'aller le voir. Voilà. Et puis moi j'attends le tome 2. Merci beaucoup.
Ouais, merci beaucoup.